Eurovision 69.
Actually, we've done the math. However, we have further countries coming up, but it's no longer possible for any other country to catch up. We already have a winner.
That's extraordinary.
Winner is Sweden!
Sweden!
Congratulations!
Do you have something to say?
We are all heroes, no matter who we love, who we are, or what we believe in. We are all heroes.
Eurovision 69.
Don't have the guts and have to miss and can't do what has been done. Let's run for cover.
Eurovision 69.
What if I'm the only hero left? You better fight your off your gun. What's and forever?
Bonjour, bienvenue sur ce premier podcast Eurovision 69 2015-16.
Bonjour, Aitor à Paris, très content de vous accueillir dans le podcast numéro 1 de la saison 4.
Bonjour, c'est Fabrice du Nord.
Eh oui, c'est déjà la saison 4. Bonjour, c'est Farouk de Paris.
Là, vous écoutez la meilleure chanson de cette année, notre chanson favorite de notre podcast 51. Hein. Cette année, on a été très bon. Pour une fois, on a deviné les gagnants. Hein. Et donc, cette année, l'année prochaine, plutôt en 2016, on ira où? À quel pays, mes amis?
On ira en Suède.
Ouais, on ira enfin à la capitale, à Stockholm. Donc, vous allez voir, donc, nous, on est revenus avec beaucoup de force après l'été, avec ces vacances méritées. Hein. Ouais, vous avez eu la chance d'écouter un magnifique podcast de Farouk aussi, il ne faut pas oublier, en été. Mais là, nous, on revient maintenant, on m'a parlé de l'Eurovision, 2016 et tout ça. Mais avant ça, on a pensé, comme l'année dernière, de faire un petit retour non, de tout ce qu'on a vécu à Vienne, du concours en fait. Et donc, on va, comme l'année dernière, faire les prix Eurovision 69. Et on fera dans deux podcasts, hein, celui-ci, et on ira, on parlera plutôt des impressions générales sur les concours. La semaine prochaine, on parlera plus sur les chansons, les chanteurs, etc. Bon, comme l'année dernière, pas de surprises. Et voilà, et en parlant des surprises, bah, on va commencer par quel prix, Ethan?
C'est la bonne surprise. C'est avec la bonne surprise que nous commençons. Et je sais pas pourquoi Hector a choisi de me le faire présenter, parce que c'est un des seuls prix pour lequel je n'ai pas voté. Bref, dans la catégorie bonne surprise, les nommés sont la Géorgie, Israël, la République tchèque, la Belgique, la Lettonie, l'Allemagne et la France. Attention, roulement de tambour, le gagnant est Loïc Noté pour la Belgique. Et je suis super content.
Listen to the sound of thunder rolling in the soul down under. Far beneath the skin it rumbles. Step to the step of the drum that rolls inside. Be you enemy. We're gonna rap up, up tonight. And if we die tomorrow, what do we have to show for the wicked ways down below? The rhythm inside is telling us we can fly tomorrow on the beautiful wind that blows on a cosmic track. Love attack, I'm gonna get that rhythm back.
Thank you.
Je suis ému.
T'es content ou pas?
Bah oui que je suis content. C'est un bon garçon.
Ouais, c'était une belle surprise ce classement de la Belgique. On a eu peur au début, aux premières répétitions, quand on a vu ce qui se passait sur l'écran. On s'est dit, c'est quoi ce truc? Et finalement, il en a fait quelque chose. Un garçon talentueux. Je salue les efforts des Belges francophones qui ont leur deuxième bon résultat consécutif.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, je l'avais dans mon top 10, mais sur place, je suis tombé amoureux de la chanson. Pas du top de Loïc, hein. Faut pas exagérer, mais j'ai beaucoup aimé la chanson et c'est une des chansons qui se continue à écouter. Et j'ai mis le volume fort, donc vous savez, c'est un 5, quoi. Mes voisins me détestent déjà parce qu'ils la connaissent par cœur. Donc voilà, c'est la bonne surprise pour nous, hein. Il y a d'autres bonnes surprises pour vous ou pas?
Mais a priori, vu ce qu'on a voté, la deuxième bonne surprise, c'est Israël. Mama, someone broke my heart again. Tell her I don't think. Déjà, la bonne surprise, c'était qu'ils soient en finale.
C'est surtout ça, je pense.
Oui, parce que malgré tout, une belle prestation, mais notre ami Nadav chantait un petit peu faux. Heureusement qu'il avait de bons choristes derrière lui.
Ok, moi je suis d'accord parce que au moins on a vu Israël. Ça faisait hyper longtemps que ne voyait pas l'Israël en finale. Et en plus, une chanson avec laquelle on a beaucoup dansé, et très bien.
Bah oui, comme il n'y a pas beaucoup de chansons dansantes.
Voilà. On va quitter maintenant donc ces prix-là, la bonne surprise, on va passer à...
Oui, parce que maintenant, il y a aussi des grosses déceptions. Et la grosse déception, c'est bien sûr... l'Espagne. Je vais tout de suite laisser la parole à Aitor, qui est le premier concerné.
Oh. Bon, et Faro, quel est l'anti-suspense? C'est un peu comme les présentatrices de cette année de l'Eurovision, on en parlera tout à l'heure, mais... T'as pas dit les nominés ni rien. Oui, je parle de l'Espagne parce que pour moi c'était une grosse déception. Pas tellement l'interprétation de Edurne, parce que pour moi elle a chanté pas mal, ni la mise en scène, pour moi c'était pas si horrible que ça, même si quelques-uns l'ont critiqué, des Rangar, etc. On en parlera dans les podcasts suivants peut-être, des mises en scène. Et moi c'est surtout déçu par le classement de l'Espagne, parce que moi je m'attendais pas du tout Moubou non plus, mais bon, j'ai voulu parler sur ça parce qu'en fait je sais pas si vous avez lu l'article que je publiais dans les sites, qu'il y a 1 000 000 000 de formules et des points et tout ça.
L'article s'appelle
le vote de l'Eurovision 2015 contesté.
Ben oui, j'avais un voyage, j'avais 6 heures de train, donc ça m'a pris les 6 heures pour le
voilà. En gros, j'ai fait l'effort de calculer les points de l'Eurovision si on les votait au top 10. Cette année, on avait voté au top 27. Donc, on a un point pour les gagnants, 27 pour les derniers. Donc, celui qui a les moins de points gagnerait, si vous voulez. En gros, on découvre que l'Espagne aurait fini 11e des télévotes, 14e des jurys. Et en général, l'Espagne aurait fini 11e. C'est en fait la même manière qu'on a voté nous sur notre podcast. Donc, en gros, l'Espagne finissait 11e. Mais comme on vote qu'au top 10, elle a fini avec presque 0 points. Je comprends que les gens, ils seraient pas contents si on change la manière de voter, ils adorent écouter les 12 points ou whatever. Mais moi, je pense que ça montre qu'en fait, ce type de vote, c'est très bien pour les gagnants. C'est clair que c'est ce qu'on cherche à la fin. Mais c'est très injuste pour d'autres chansons. Et Edurne, elle est revenue en Espagne comme une perdante. Alors qu'à mon avis, si elle avait fini 11e, tout le monde aurait dit félicitations, quoi. Alors que c'est juste la manière de voter avec la même interprétation et avec les mêmes votes du jury. En fait, c'est un peu l'ironie. C'est pour ça que pour moi c'est de la grosse déception, mais c'est surtout de la manière de voter plutôt que pour la journée, que pour moi il a fait un travail magnifique, et en plus il a été très bon perdant, parce qu'à aucun moment il n'a critiqué les concours, il a dit que bon, que la Suède méritait gagner, etc. Donc pour moi, bravo, ça c'est aussi applaudir, quoi. Voilà, j'ai fait un discours plus long que mon article, mais
Hater, je pense que tu touches du doigt ce qui, à mon avis, est la caractéristique de l'Eurovision depuis ces dernières années, c'est que globalement, une fois passé le top 10, le classement ne signifie plus grand-chose. On peut prendre n'importe quel système de points, ce sera toujours injuste. Je pense que c'est ça qui est important. C'est qu'une fois classé, je ne suis pas sûr que classer 15e ou 20e, ça change beaucoup. Et je crois que vraiment, on n'a plus tellement à se formaliser si on est dernier ou douzième, parce que pour moi c'est presque pareil. Ça veut dire que la chanson n'a pas plu. C'est tout.
Oh, il n'a pas plu autant que la gagnante, parce que c'est vrai que cette année il y avait un top 8, top 9 des chansons que tout le monde a voté, quoi. Et que je pense qu'on lui tous les top 9 de cette année. Hein.
Oui, oui, mais je pense que globalement, quand on n'est pas dans le top 10, bon ben voilà, on n'a pas à être classé finalement, ça sert à rien, ça veut plus rien dire. Dans ce type de système de vote, la prime est toujours aux pays qui ont des communautés ou des soutiens importants. Donc,
ouais, c'est d'accord.
Voilà, c'est tout. C'est ce que je veux dire, c'est juste ça. C'est que ça n'a pas de sens parce que les pays qui n'ont pas d'amis seront toujours défavorisés, et c'est le cas un petit peu de l'Espagne.
Oui, mais de la France aussi, hein. Et donc, en fait, voilà, c'est ce que, c'est l'article, vous lirez, que c'est les top 9 qui a reçu les 80% des points. Donc, c'est ce que tu viens de dire. Après, le 20% du reste, c'est divisé en tous les restes des pays, 18 pays pour 20% des points. Bah, finalement, c'est
la prime va aux copains.
Voilà. Et les copains, les voisins, enfin, voilà. Et la Serbie, en fait, elle était dixième, mais la moitié des points venaient des pays voisins. Donc, finalement, c'est ce que tu viens de dire. Mais bon, c'est pour ça la grosse déception. Bon, on va pleurer, mais bon, sinon ouais. Bravo pour être, mais moi.
Un petit peu ce que tu as pensé de la réalisation de la TV.
Donc ouais, on va changer pour la réalisation de la TV. Bah, c'est un peu la même chose d'Urne. Enfin, je sais pas si vous avez constaté, mais quand si vous regardez la répétition des images, on voit les beaux danseurs espagnols, beaux italiens en fait, qu'ils courent avec la cape d'Edurne pour pas qu'on les voit. Et la caméra, il rattrape ces images alors que c'est les trucs qu'il fallait pas voir. Pour moi, c'est une réalisation hyper ratée. Et c'est pas la seule chose que j'ai vu ratée, parce que j'ai vu les applaudissements du public enregistrés qui sont pas réels, qui rajoutent sur les chansons. Les hurlements quand on hurle la Russie, qu'on n'écoute pas. En fait, ça, je trouve que c'est une réalisation un peu faussée, quoi. Je sais pas si vous êtes d'accord. Et Dan?
Pas spécialement. effectivement, pour le coup des applaudissements, on avait un peu peur pendant les 15 jours, parce que pendant les répétitions, justement, on entendait des applaudissements alors que la salle était vide. On se disait, oula, qu'est-ce qui nous prépare? Et puis, en fait, pour la Russie, ok, on n'entend pas les huées, mais on voit des drapeaux gays tout le long de la chanson, donc je pense pas que ce soit une volonté politique marquée ni de l'UER ni d'ORF. Je pense juste que leur objectif, c'est de faire un joli show télé, et qu'ils ont réussi à faire un joli show télé. Voilà, moi je trouve que c'est un show réussi, que la réalisation est plutôt meilleure que certaines années. Voilà.
Je rejoins Ethan, hein. C'est un joli show télé, voilà.
Oui, c'est bien. Moi, je suis pas particulièrement partisan des applaudissements enregistrés. J'aime pas quand on trompe le public. même pour faire un truc joli, pour moi ça n'en vaut pas toujours le coup, et là-dessus je suis pas d'accord avec l'UER. Je pense que les gens ont le droit de siffler une chanson, ils ont le droit de pas l'applaudir. On n'a pas besoin de faire des magouilles pour transcrire à l'opposé de ce qui se passe dans une salle.
Ouais. C'est ça. C'est le public qui a raison, quoi. Si ça
applaudit, oui, mais j'ai pas l'impression que ça a été faussé, hein. La Russe, elle a été très applaudie aussi.
Ouais, mais non, mais pareil, c'est surtout dans les votes de la Russie. Moi, on parlera tout à l'heure, mais les votes cette année, moi, c'est les meilleurs votes de l'histoire que j'ai vécu en live. J'adorais. Et ça, la télé, on les voit pas parce que c'est complètement trafiqué, les sons. On n'entend pas les hurlements, enfin, contre la Russie. On n'entend pas Suède, Suède, Suède. Enfin, on l'entend, mais légèrement. Alors qu'en réalité, là-bas, on vivrait, quoi. Et tout le temps parce que tout est dedans. Et ça, à la télé, malheureusement, on les voit pas. Et c'était oui, magique. Pour moi, c'était magique.
Je pense que c'est impossible de le transcrire à la télé. Parce que si tu mets le son que nous, on a vécu, t'entends plus les présentatrices, t'entends plus les points.
Mais c'était la magie, quoi. C'était ça, la vraie magie des concours. Moi, je pense que c'est là, l'intérêt d'être à l'Eurovision Live, c'est ça.
Bien sûr, c'est pour ça que nous, on y va. C'est pour entendre ce moment-là. Mais ça peut pas être transcrit à la télé, fidèlement. C'est impossible.
En tout cas, quelque chose qui est bien passé à l'écran, c'est la scène du concours. Elle était très jolie, très réussie. Je pense que Ethan regrettera qu'il n'a pas de catwalk. Mais
oui, c'est vrai.
Mais c'était une jolie scène. Voilà.
Je te rejoins, Fabrice. Une jolie scène. J'ai juste un bémol. Moi, je pense aussi aux gens qui sont dans la salle. Et les tubes sur les côtés, ben, c'est pas sympa pour les gens qui sont sur les côtés.
Et j'étais rejoint parce qu'en plus moi j'étais assis moi c'est les seuls des quatre qui étaient assis et justement nous les fans on avait toujours une place du côté, donc on n'a jamais réussi à voir la scène en complet. Et il y a une journée où je la voyais presque pas du tout et je regardais la télé. Dans le jour de la finale je voyais la moitié et du coup je regardais beaucoup dans l'écran aussi, qui n'était pas mal parce que tu vois la réalisation, c'était pas la pire, hein, mais il y a une journée où vraiment je voyais vraiment rien. Donc c'est je voyais les tubes. Et ça, quand tu as payé une place assise, bah écoute, il faut prévenir les gens, quoi. C'est pas. Donc et sinon la scène, moi je trouve que c'était très petite. Et pour certaines chansons, ça c'était joli. Pour la France ou pour l'Espagne, j'ai trouvé joli. Pour d'autres chansons, j'ai trouvé vraiment moche. Moi j'aurais enlevé la partie ces tubes justement.
Moi j'ai trouvé ça très bien comme ça. J'étais debout face à la scène, je voyais très bien les quatre présentatrices. Elles étaient quatre cette année. Quatre à incarner le pays hôte sur la scène de Vienne, quatre à crier en chœur Good evening Europe et Good morning Australia. Myriam Weichselbraun ou un truc comme ça, Alice Tumler, Arabella Kiesbauer et évidemment Conchita Wurst. Alors, vous n'avez pas forcément retenu qui était qui, je vais vous aider. Myriam, c'est celle au français parfait. Alice, c'est la petite, la blonde, qui essaie d'être rigolote. Elle n'y arrive pas toujours. Arabella, c'était la grande blague. Et bien, Conchita, c'était celle avec une barbe, hein, il n'y en avait qu'une. Moi, je les ai trouvées pas mal du tout, à vrai dire. C'est un style plus détendu que celui auquel on est habitué au concours et je trouve que c'était bien comme ça. En gros, c'était le personnage que jouait Petra Médé, sauf que là, elle jouait pas, quoi, c'était elle. Et puis Conchita, elle était très bien aussi. Comme souvent, moi je l'ai trouvé beaucoup mieux en répétition qu'en live. Le truc, c'est qu'au fil des répétitions, ils élaguent, ils coupent dans le texte, ils enlèvent les remarques un peu piquantes ou drôles. Et puis, on perd aussi un peu en naturel, je pense, au fil du temps. C'est dommage.
Moi, les présentateurs commencent vraiment à m'embêter depuis quelques années. En fait, depuis 2011. J'aimais beaucoup la présentatrice de 2011. Engue, je ne sais plus quoi. Et depuis, pour moi, il n'y a personne qui est arrivé à la cheville.
Je suis d'accord avec toi, Fabrice. Pour moi, la dernière fois où les présentateurs, présentatrices valaient le coup, c'était à Düsseldorf, avec Anke, qui était d'ailleurs bien au-dessus du lot, bien meilleur que les deux autres. Depuis, je trouve que les présentateurs sont inutiles. Pour moi, il suffisait de prendre Conchita, elle était suffisante, il y avait ce qu'il fallait, et les trois autres étaient insipides, indolores, inodores, et inutiles.
D'habitude,
bon.
C'est toi qui dis ça.
Oui, c'est
le rôle. Ça sert à rien. Et en fait je me demande si les présentateurs servent encore à quelque chose.
Oui, parce que là, tout s'est bien passé. La plupart du temps, tout se passe bien. Donc, effectivement, ils ne servent à rien, si ce n'est à meubler les quelques changements de plateau un peu compliqués. Mais c'est un show en direct. C'est trois shows en direct. Six, si on compte les shows jury. Il y a besoin, et avec des millions en jeu en plus, il y a besoin de parer aux imprévus. Si jamais il y avait un pépin, il y en a eu dans certains Melody Festival notamment, il faut quelqu'un sur scène pour meubler, pour tenir l'écran, quoi.
Je comprends, Ethan, il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est que tout est préparé à l'avance. C'est-à-dire le moindre mot qu'elles vont dire est inscrit sur leur écran, sur leur prompteur. Ça manque de naturel, en fait. Même quand ils font des blagues, c'est pas drôle. Parce que c'est pas naturel. Ils sont mauvais. Il faut remonter à Anke en 2011 pour avoir quelqu'un où elle te dit un truc drôle. Et en même temps, t'as l'impression que c'est naturel, même si tu sais que ça l'est pas, mais... Elle sait jouer, Anke. Les autres ne savent pas jouer.
Elle est une actrice.
Peut-être des acteurs et pas des présentateurs.
C'est pour ça que si la France gagne, il faudrait mettre Florence Foresti.
Oh non, putain, non.
Non, mais il faut quelqu'un.
Enfin bon, on n'aura pas à se poser la question avant des années, tout va bien.
Il faut quelqu'un qui ait de la répartie. C'est ça que je dis. Il faut quelqu'un qui sache improviser et qui soit drôle. Un concours ne serait rien sans les fameux intervalles. Alors, pendant la première demi-finale, nous avons eu droit à une ouverture sur la victoire de Conchita Wurst à Copenhague. Ensuite, nous avons eu droit au fameux petit clip History of Eurovision, vu, revu et 10 000 fois vu, tellement vu que c'est la pause pipi de tous les gens qui sont dans la salle. Pendant la seconde demi, on a eu droit à une petite séquence qui s'appelle Pets in Vienna, où on voyait un chat, un chien et un cheval qui visitaient la ville. Bon, ça faisait sourire, on va dire. Il y avait le coin peut-être de nos lèvres qui montait un petit peu. Mais bon, ça cassait pas trois pattes à un canard. Au niveau de la finale, l'ouverture s'est faite avec un orchestre symphonique live. On a eu droit à 10 secondes d'Udo Jürgens et un hommage que j'appellerais un hommage de merde pour celui qui a été le premier vainqueur de l'Euro. Non, mais j'ai trouvé que c'était scandaleux. 10 secondes, on aurait peut-être mérité que quelqu'un qui reprenne la chanson Merci Chérie quand même. En plus, Udo venait juste de mourir, je pense que ça aurait été un bel hommage. Là-dessus, je pense que l'ORF s'est complètement viandé. Au niveau des intervalles actes, on a eu droit, bien sûr, aux inévitables séquences History of Eurovision pendant cette finale. Mais nous avons eu droit aussi à un célèbre percussionniste autrichien qui s'appelle Martin Grusbinger, qui nous a fait un show. Bon, moi j'ai trouvé ça chiant. C'est le moment où on a été boire un verre, parce que c'était chiant. Comme tous les intervalles depuis des années. Conchita Wurst a fait un medley, You Are Unstoppable et Firestorm, histoire de faire la promotion de son nouvel album. Ah, j'oubliais, il ne faut plus l'appeler Conchita Wurst, il faut l'appeler juste Conchita. Oh. Une petite séquence de vidéos de fans au début de la finale, mais très frustrante pour nous parce qu'il n'y avait pas un seul Français. Bref, pour moi, comme d'habitude depuis des années, ces intervalles-là sont chiants, c'est là pour meubler, c'est la pause pipi, la pause boisson, la pause cahouette, ils n'ont aucun intérêt.
Je suis tout à fait d'accord. À la pause, c'est que pour la finale, par exemple, moi, je suis parti aux toilettes. La pause pipi, comme vous dites. Mais c'est drôle parce que ma mère, elle m'a écrit un WhatsApp en me disant, ah, c'est très beau, ça, c'est magnifique. Donc, ma mère, elle a aimé. Hein. C'est pas, il y a déjà des fins mots.
C'était incroyable à vivre dans la fosse, hein. Parce que c'était du 5.1, il y avait des tambours qui étaient physiquement dans la fosse. Du coup, c'était assez incroyable, moi je trouve. Sur l'intérêt de façon générale des intervalles-actes, moi je trouve qu'on en a eu des très bons à Malmö. C'était particulièrement réussi pour moi. Cette année, c'est vrai qu'à part l'ouverture de la première demi-finale, c'était un peu en dessous.
L'ouverture de la première demi, c'était avec le cheval, le chat, je sais plus quoi, là.
Non, c'était Conchita.
En tout cas, c'était ça qui m'a marqué. J'ai trouvé ça une très très bonne idée. Et tout le reste, même le récital interminable de Conchita Wurst, c'était interminable. J'en pouvais plus. Je trouve qu'il devrait, je sais pas, il y avait
ça durait 3 minutes.
Oui, il y avait Jacqueline Boyer dans les parages. Elle aurait pu chanter dans une demi en intervalle. Les gens, ils auraient été contents de voir Jacqueline Boyer.
Non, à part toi, personne, je pense.
Maintenant, tu t'en fous, Fabrice, de ta photo.
Oui, mais je l'aime bien. Il y avait Anne-Marie David aussi dans les parages.
Ah non, pitié.
Non, il y a quand même une chose dont on n'a pas parlé et qui pour moi est vraiment très bien. C'est au début du show, lorsque les artistes quittent la green room pour arriver sur la scène. J'ai trouvé ça très très chouette.
Ah oh non, c'était trop long.
Mais non, c'est très bien qu'on les voit arriver successivement.
Ça fait 3 ans qu'ils font ça, mais cette année c'était trop long. Les Suédois ont commencé, c'était très bien. Sur le pont, ça fonctionnait vraiment bien. L'arrivée des drapeaux et des artistes au Danemark était très réussie. De toute façon, pour moi, le concours de Copenhague, c'est un des meilleurs qu'on ait vu. Cette année, c'était trop long, le défilé des nations, là. C'était juste trop long.
Ouais, d'accord. En tout cas, quelque chose qu'on n'est pas prêt d'oublier, c'est le thème Building Bridges, le thème musical de cette année. C'est un thème qui reste dans la tête. Moi, je l'ai encore, hein, 2 mois après le concours. Et je trouve que c'était une belle réussite, même si la prestation chantée sur scène était cucu à souhait avec les petits enfants et tout, le playback des présentatrices. Là, c'était quand même un petit peu too much.
C'est vrai. En live, j'ai pas aimé beaucoup, mais après, à force de l'écouter, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Hein. Et c'est la fredonne encore. Ok. Et une autre chose qui marque souvent les Eurofans, c'est la personne qui nous raconte l'Eurovision, non? Les commentateurs de chaque télévision. Moi, souvent, j'ai regardé sur la télé espagnole. Maintenant, je fais l'espagnol, la française, l'anglaise. Cette année, j'ai fait les trois. On va parler d'abord sur les commentateurs de la France, c'est ce qui vous intéresse, vous, j'imagine. Et c'était cette année Marianne James et Stéphane Bern. Donc, pour moi, quand j'ai su ça, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée parce que Marianne James, c'est quelqu'un qui, à la base, j'adorais. C'est sur la nouvelle star et tout ça. C'est pour moi, si je regardais l'émission à cause d'elle, donc, ou grâce à elle, je sais pas. Donc, pour moi, c'était très bien. Et j'avoue que avant de vous raconter ce que je pense des commentateurs, je vais raconter une petite Afton Bladcast, puisque ne les fait pas Fabrice aujourd'hui.
Afton Bladcast.
C'est que le jour où je quittais Vienne, en fait, à l'aéroport, dans le même avion, on était toute la délégation de la France, France Télévisions, beaucoup de fans, etc. Donc nous avions Stéphane Bern et Marianne James avec nous. Et pile poil, j'étais derrière Marianne James pour laisser la partie de la sécurité, vous voyez. Donc en fait, j'ai parlé avec elle, tu vois, j'ai parlé avec Marianne James, je peux dire ça, parce que je sais que les autres, ils ont eu du mal. Et... en gros, je lui ai demandé s'il n'était pas intéressé pour venir à l'Eurovision. Et il m'a dit, ah non, j'ai 54 ans, je suis trop vieille. Et puis, il a pité sur la sécurité, il pouvait pas passer. Et quand on a passé, elle m'a dit, bah, qu'est-ce qui s'attend que je m'enlève la soute en gorge, ou un truc comme ça. J'étais un peu bouche-bec, il m'a dit ça à moi, qui me connaissait derrière, mais bon, en tout cas, voilà, c'est marrant. Et sinon, par rapport aux commentateurs de la France, bah, moi, j'ai écouté les commentaires et j'ai trouvé archi nul. Je sais pas si vous êtes d'accord.
Ah, moi, j'ai pas écouté.
Bon, moi, j'ai pas écouté non plus. Par contre, je vais séparer Stéphane Bern et Marianne James. Je pense que Stéphane Bern, c'est un très 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 bon présentateur. Il nous embarque dans son truc. Et je vais rebondir sur Marianne James et Thor. Elle est désagréable. Elle manque d'empathie. Elle est pas sympa. Et puis, le jour, même si un jour elle représente la France à l'Eurovision, je viendrai pas avec mon drapeau français.
Oh là, si t'es crois pas du tout.
Ah si.
Ouais, c'est vrai qu'il faut séparer les deux. J'ai trouvé Stéphane Bern, on va dire, accessible en tout cas, souriant. Et j'ai pas trouvé Maria James sympa. Et dès ma première rencontre avec elle, le courant n'est pas passé. C'était pendant l'interview, la conférence de presse de la délégation française. Il y a un truc qui va pas avec cette nana. Elle est très différente de ce qu'on imagine d'elle en la voyant en télé. C'est une grosse déception. J'espère ne plus jamais la rencontrer, en fait.
Alors, moi, je suis pas du tout d'accord avec vous. Moi, je l'ai déjà rencontrée en dehors de l'Eurovision. Je l'ai trouvée très sympa. Et puis, de toute façon, elle était pas là pour être sympa. Elle était là pour présenter le truc. Du coup, je vois pas où est le problème. Enfin, bon, bref, peu importe. Moi, les commentateurs, ça m'intéresse pas trop. Je trouve qu'on pourrait se passer des commentateurs. Il y a des présentateurs, ça suffit. On n'a qu'à surtitrer les présentateurs.
Non, on n'a qu'à faire en deux langues, français et anglais, le vrai deux langues.
Ouais, bah ça c'est pour les français.
Mais il y a des Espagnols, des Italiens, des Grecs, des Moldaves hein, aussi.
Les deux langues de l'Eurovision, c'est le français et l'anglais.
Certes.
Bon, ouais, ça c'est bien pour nous, mais okay. Pas pour les Espagnols. Et moi je voulais rebondir sur ça. Je voulais dire une chose, c'est que voilà, comme je me suis tapé les concours dans les trois langues, anglais, français, espagnol, je peux vous dire que la différence entre la France, l'Espagne et l'Angleterre, c'est que la France transmet une idée. Peut-être que Stéphane Bern, c'est pas tellement le cas, hein, mais Marianne James et les autres années, ils transmettent une image de on est en train de regarder un tour hangar. Bon, on va se moquer de cette merde que nous sommes en train de voir. Du coup, les gens qui regardent ça peuvent pas prendre l'Eurovision au sérieux. Donc du coup, je pense que c'est une partie de la faute de l'Eurovision, du succès ou pas succès, c'est les commentateurs. En Espagne, c'est peut-être complètement l'inverse, ou c'est tellement sérieux que ça, pour un Français, ça peut choquer même, parce que c'est comme si on retransmettait les Jeux Olympiques, quoi. C'est vraiment un truc sérieux, quoi. Donc c'est une compétition, un meilleur chanteur, machin. Et puis il y a l'Angleterre, où ça mélange entre les deux, parce que ils savent c'est moqué, mais en même temps, ils savent dire, ça c'est très bien, c'est une bonne chanson, etc. Et justement, pour l'Espagne, parce que j'ai regardé l'Espagne et la France, et le commentateur du Royaume-Uni, Graham Norton, là, pour l'Espagne, il a dit, attention là, vous savez, à une chanson du top, vous voyez, donc lui aussi, il était d'accord avec moi, il a dit être surpris. Pour la France, il a dit le contraire. Donc ça, voilà.
C'est des oui, mais il est réputé, Graham Norton, pour pas être sympa, hein.
Voilà. Non, mais on est d'accord, les Anglais, et avant c'était pire avec le précédent qui est à la retraite maintenant, hein, je me souviens plus comment il s'appelait.
Oui.
Bon, c'est pour dire le petit commentaire de mon côté, c'est que le commentateur, c'est très important, c'est pas un truc à négliger, Ethan, parce que pour un pays qui parle pas anglais ou français, c'est eux qui vont faire l'image du concours, même si tu te rends pas compte.
Je pense que nous avons pas effectivement la même perception du concours entre la France, l'Espagne et l'Angleterre. En France, l'image du concours n'est pas bonne. Et je dirais que pour faire passer la pilule, on en rajoute sur le deuxième ou le troisième degré. Et effectivement, ça n'encourage pas les gens à prendre ça au sérieux. Après, on peut se poser la question, est-ce qu'il faut prendre l'Eurovision au sérieux?
Mais évidemment que non.
Ouais, exactement. Évidemment pas comme un truc sérieux vendu en prison. Mais en même temps, il faut pas dire ça c'est une merde, comme on a déjà vu.
J'ai jamais dit ça.
Non, mais
on a déjà vu ça.
Non, mais alors, vous pensez à 2001-2002, j'en suis sûr, ouais. Et ils ont jamais dit c'est une merde. Je pense que c'est les deux plus grands fans du concours qu'on ait eu en tant que commentateur. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. Ça paraissait irrespectueux. Moi, je trouve que ça l'était pas. C'était drôle, c'était un bon moment de télé. Il suffisait de couper leur micro quand les chansons commençaient, et puis c'est bon, on avait deux commentateurs parfaits pour moi.
On bon, parlait de Dev et de Marc-Olivier Fogel.
Oui.
Ok, bah, c'était les deux derniers bons commentateurs qu'on a eu.
Ah, vous voyez, voilà. Et pour un Espagnol, c'est complètement l'inverse. Pour moi, c'est horrible. C'est les pires que vous avez eu pour moi. Parce que appeler à Rosa Hippopotame et Bâche, moi, je trouve pas normal. Voilà, voilà, mais si c'est drôle, mais c'est pas normal.
Tu peux pas mais c'est ça. Drôle mais
non. C'est l'humour français, tu peux pas comprendre.
Ah, bon, voilà, peut-être c'est que j'y suis pas français, je sais pas. Bon, on va parler beaucoup parler des commentateurs. On passe à Fabrice.
Oui, on va passer à quelque chose. Je vais pas m'éterniser dessus. C'est l'ordre de passage, puisque Farouk le fera très bien. l'ordre de passage, comme tout le monde le sait, c'est décidé arbitrairement par les producteurs du concours. Et cette année, et tout le monde est d'accord avec moi, on a tué l'Estonie, on a tué Israël, volontairement.
Non, tout le monde n'est pas d'accord avec toi, mais peu importe.
Dans ce cas-là, pourquoi on n'a pas mis Manzemerlo en troisième position? Le débat, il restera sans fin. Mais bon, moi, je dis plus rien sur
l'enquête. Loïc Noté a fini deuxième de sa demi-finale en chantant troisième. On envoie une bonne chanson, un bon interprète, et hop, on est haut. Et en puis fait, voilà.
Je pense qu'en fait, c'est pas seulement la position. La position, ça peut influencer quand la chanson, elle est très bonne. Bah, ça peut te faire perdre quelques points, mais tu peux gagner. Si t'es très mauvais, tu peux être plus facilement oublié. Mais c'est pas seulement la position pour moi, c'est plutôt qu'est-ce que tu as autour de toi aussi. Parce que si devant toi et après toi, t'as les meilleures chansons, les meilleures voix, et tu chantes un peu pourri, t'es mort. Et même si tu chantes à la fin ou au début. Et ça, on l'a déjà vu à l'Eurovision. Et par exemple, cette année, l'Espagne, elle a chanté à super bonne position, 21, et il s'est fait bouffer par la Russie derrière, à mon avis. Hein.
Alors, pourquoi, dans ce cas-là, on n'a pas mis Mons en troisième position, Israël en quatrième et l'Estonie en cinquième?
Oui, mais tu sais, Fabrice, on a déjà dit ça, au dernier junior, la Bulgarie a gagné en chantant deuxième comme la France cette année.
Oui.
En réalité, la Bulgarie a gagné le télévote, mais pas le concours, à cause du jury.
La Turquie, elle a gagné en chantant troisième, si je ne me trompe pas. La Suède, qu'on va écouter tout à l'heure d'ailleurs, vous allez voir, a gagné en chantant en premier. Donc en fait, c'est vrai que ça peut influencer quelques points. Mans n'a pas gagné les télévotes, hein, je le sais bien. Et là, l'Italie a gagné. Mais ça peut influencer quelques points, mais ça fait pas les 100%. Et on sait pas si la chanson elle est bonne, elle peut gagner, comme Conchita et Mons, ou se faire massacrer.
La parole, mais pas très longtemps, juste pour dire qu'à la base, l'UER a proposé que ce soit la production qui décide de l'ordre de passage.
Le groupe de référence dont faisait partie la France à ce moment-là a décidé que, pas l'UER.
Pour que le show soit varié. Et en fait, pour moi, le show n'est pas varié. C'est-à-dire que malgré tout, on sait que les pays tirent soit la première, soit la deuxième partie du spectacle, et on n'a pas eu le show varié qu'on pouvait espérer. Bref, pour moi, au niveau de la variété du show, c'est un échec. La deuxième chose, pour moi, qui est beaucoup plus importante, c'est que l'Eurovision, c'est aussi une compétition. Et à partir du moment où c'est une compétition, il doit y avoir tirage au sort, point par. Je peux imaginer qu'on trouve un système avec des poules, un petit peu comme au foot, où on tire alternativement des chansons lentes, moins lentes, qui bougent beaucoup. Mais pour moi, à partir du moment où la production décide, elle oriente. On ne sait pas jusqu'à quel point l'heure de passage compte pour le classement final, et j'ai même envie de dire que c'est presque accessoire. Mais pour moi, la main de l'homme n'a pas à décider de l'heure de passage. C'est comme si au foot, on décidait des tirages au sort des poules, ou des huitièmes ou des quarts de finale. Je pense que tout doit être tiré au sort, point barre.
Moi, je pense que ça serait mon idée, ce que tu as dit. Mais le problème, c'est que c'est pas toujours facile à faire ça, en fait. Hein. Cette année, ils ont essayé pas faire un homme et deux hommes de suite. Ils essayaient de mélanger les sexes, même la couleur de la scène. Si une c'est noire et après c'est blanche, ça c'est l'excuse qu'ils ont donné en tout cas. Hein.
Ouais, mais Aitor, et malgré tout, 2014, la Suède favorite passe entre, je crois que c'était 11e ou 12e, 13e, 13e. 2015, la Suède favorite, elle passe en 10e. Effectivement, Fabrice.
Dixième, c'est un bon rang de passage. Ouh là là, ils ont été hyper favorisés.
Pourquoi pas pour ouvrir le concours?
Ou en deuxième position, ça aurait été bien aussi.
Mais ça aurait rien changé.
Moi, je pense. Non, mais...
Les Suédois, ils sont bons, ils envoient de bonnes chansons, qu'on leur donne un bon classement ou pas. Et puis, c'est bien là, qu'ils aient un bon ordre de passage. C'est parmi les meilleurs. Tant mieux s'ils ont un bon ordre de passage.
Non, mais c'est ce que je voulais dire, Ethan, c'est que je suis d'accord avec toi. Sauf que le problème, c'est qu'il y a toujours des gens qui vont pas être contents, ils vont trouver une excuse pour trouver. Et donc, la seule manière de fermer les bouches aux gens et les faire voir que finalement. Tu peux gagner dans la
carte. Mais ils s'en foutent. Qui est 50 excités qui trouvent ça injuste et qui crient au scandale. Ils font un show télé.
Ouais, mais moi je pense que si tu fais au hasard comme en 2006, tu les concours, parce que 2006, les premières 8 chansons sont horribles. C'était les pires débuts de concours de l'histoire. Parce qu'ils sont faits au hasard. Faut pas faire ça. Il faut faire, un tirage au sort plus, comme a dit Farouk. Ça, par contre, je les vois plus, un compromis, quoi. Mais bon, on va pas s'éterniser parce que sinon ça va durer 3 heures. Et on va passer au truc suivant, que c'est les prix à la sympathie. Parce que malgré qu'on se plaigne beaucoup, une des choses que ça nous plaît beaucoup de l'Eurovision, c'est qu'on retrouve des chanteurs, des interprètes sympathiques. Et cette année, il y en a eu. Hein. Donc, on en a eu pas mal. Je sais pas ce qu'on a cité, une bonne cancel. Hein. Je vais pas
mais ils étaient tous sympas, mais il y en avait qui étaient. Plus sympa que les
exactement,
autres.
Exactement, parce que c'était difficile à trouver des pas sympas, il faut le dire. Hein. Mais si vous voulez vous faire une idée rapide, entre les top 5, ça serait la France, Monténégro, la Belgique, le Danemark. Mais c'est lui qui, pour tous les mondes, c'était vraiment les sympathies pour tous, on est tous d'accord. C'est. Les Tchèques, Marta Jandová et Václav.
Wait for me, don't cross the sea of pain.
Moi surtout, j'ai trouvé hyper sympa Marta, parce que déjà, ça a mis son sein quand elle jette les chaussures, même si ça fait pas très classe, mais on était mort de rire dans la première répète, quand sa chaussure était coincée, elle était mort de rire aussi. Et les concerts qu'elle a fait à l'Euroclub, c'était mais vraiment très très bien, et il nous a eu à tous, quoi, avec elle, quoi, et il a une personnalité, et en plus, elle chante bien, mais vraiment bien, pour moi, c'est bon, ça c'est pas les prix d'aujourd'hui, mais pour moi, c'était une des meilleures duos, ils se chantaient magnifique, donc pour moi, c'était bon, voilà, j'adore.
Et en plus, elle ressemble à Stéphanie de Monaco. Avec de plus gros seins. Par contre, elle a des seins énormes.
Alors, je savais pas que tu regardais des seins. Avec...
Ah bah, on voyait que ça. Mais je la voyais de profil, en plus, faut dire, hein, pendant son concert à l'Euroclub.
Bah, je vais revenir sur ce qu'a dit Hector. Ils ont tous été très sympas. Tous, sauf une. On reviendra dessus après. Tous très sympas. Farouk, tu as oublié un truc parce que les Danois sont arrivés en deuxième position dans ce prix-là. Tu as oublié que les Danois ont eu la gentillesse de recommencer 50 fois une photo, parce qu'une fois on a oublié une carte SD, une fois c'était pas bon appareil, une fois c'était flou, une fois ceci, cela, ils ont vraiment été patients et sympas. Vraiment, cette année, ils ont tous été bien.
Oui, ouais, ils ont tous été sympas, vraiment. À part une, c'est vraiment une promo 2015 très chouette.
Et j'ai des mains d'excuses, je ne dis pas très sympathique par contre avec Fabrice parce que je l'ai bouffé là. Je l'ai présenté l'autre prix et je me suis avancé, je pense.
Bah oui, bah c'est pas grave. Hein.
Oui, parce qu'on est sur les tchèques, mais les tchèques, ils ont aussi reçu un autre prix, non?
Les tchèques, qu'est-ce qu'ils ont reçu comme prix? Ah oui, 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 oui. Bah le classement le plus injuste, hein. Parce que bon, vous serez d'accord avec moi, Hector, il trouvera toujours que l'Espagne c'est injuste, Ethan trouvera toujours que l'Allemagne est injuste, mais on a tous été plus ou moins d'accord pour dire que la non-qualification de la République tchèque, c'est vraiment une grande injustice. Tout comme la non-qualification de la Suisse en 2012.
Ouais, ouais, non, c'est la grosse injustice de ce concours, c'est de pas avoir vu les Tchèques en finale. Alors, c'est vrai que ils étaient tellement sympas qu'on avait tellement envie de les voir en finale et finalement ils ont quand même réussi à faire d'une chanson dont on pensait pas grand chose une prestation plutôt pas mal, j'ai trouvé moi. En live ils sont bons, sans choriste, vraiment c'était bien et ils méritaient leur place en finale, hein. c'est vraiment dommage.
Ben, c'est ça quoi, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, hein. Pour moi une interprétation géniale, mais vraiment même les répétitions j'ai l'impression qu'on écoute les studios, mais à chaque fois j'ai dit mais comment ils peuvent chanter si bien les deux, c'est hallucinant sans faire aucun effort. Et plus elle a fait un concert à l'Aéroclub, je pense que c'était la veille de la demi-finale, elle s'en foutait, elle était là, ouais, elle est tout, voilà quoi, donc très bien. Ouais, donc un classement les plus injustes, il y en a d'autres, mais bon, comme on a parlé, on va pas répéter tous les pays à nouveau.
Allez, là, on va attribuer, attention, le moment est solennel, le prix Citron. Non, 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 il n'est pas attribué à Marianne James, hein, on n'a pas pu voter pour elle. Dun, dun, dun.
On n'a pas le droit de voter pour notre propre pays.
Oui, ah. En plus, malheureusement. Bon, on ne va pas vous cacher le truc hein, trop longtemps. Et c'est Trincha Osterwitch qui vient de remporter haut la main le prix Citron. Elle ira le chercher chez Ethan Waiter.
Oh, pourquoi on n'a pas voté nous?
C'est pas grave.
Ah non, pas
moi je l'ai pas trouvé pas sympa, moi je m'en fiche.
Ouais, c'est un prix bien mérité.
Je sais pas, pourquoi?
Parce qu'elle est pas sympa par rapport à tous les autres, c'était la moins sympa.
Mais qu'est-ce qu'il vous a fait?
Ah bah, elle a pas été sympa.
Ok, j'ai compris.
Non mais il faut reconnaître que Trinja fait la gueule pendant les deux semaines où elle était là. Dès les premières répétitions, tout le monde s'est rendu compte que ça n'allait pas. La mise en scène n'allait pas, les costumes n'allaient pas, les choristes n'allaient pas, rien n'allait. Et ça a été de pire en pire. Ils ont essayé de boucher les trous, mais je pense que dès les premières minutes des répétitions sur écran, on a compris que ça allait pas bien se passer pour les Pays-Bas. Trinje est une professionnelle, elle l'a compris et elle l'a montré. Et elle a fait la gueule tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je crois même qu'on nous a raconté une anecdote. Elle a croisé dans les couloirs un journaliste de je ne sais plus quelle télévision qui voulait lui demander quelques mots. Elle l'a envoyé balader. Je peux vous dire que le journaliste en question, il n'a pas fait ses éloges à la télé quand il a commenté le concours. Elle est même pas intelligente.
De toute façon, elle s'est fait détruire par la presse le lendemain de sa première répétition. Tous les journaux néerlandais faisaient leur une avec sa robe. Elle s'en est quand même pris plein la gueule pendant les 15 jours. Du coup, c'est vrai qu'elle devait pas trop avoir envie de sourire, hein.
Oui, mais excuse-moi, Ethan, mais cette fille aux Pays-Bas, c'est pas n'importe qui. Elle a quand même choisi cette robe. Je pense pas qu'on lui a imposé.
En fait, je sais pas si vous vous souvenez ou vous avez remarqué, mais cette robe, finalement, on a eu l'occasion de la voir en live dans la finale quand les Pays-Bas a voté parce que Cilia l'a porté finalement. Ça, c'était vraiment l'humour du côté des Pays-Bas, à mon avis. Ils ont bien compris les critiques et du coup ils l'ont porté eux-mêmes pour voter. C'était drôle, quoi.
Je crois que le journaliste qu'elle a envoyé balader était islandais. C'était un membre de la délégation islandaise qui m'en avait parlé. Mais c'est vrai que elle a pas du tout su faire sa promo sur place et c'est la moindre des choses. Je peux comprendre que la compétition soit stressante, difficile, que ce soit pas drôle tout le temps. Mais tu es là quand même pour montrer le bon côté, ton bon côté. Cringer ne nous a montré que son mauvais côté.
Mais à sa décharge, comme dit Ethan, c'est vrai qu'elle s'en est pris plein la gueule depuis le départ. Voilà. Et que ça peut la stresser.
Elle faisait aïe 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 aïe. La pauvre.
Bon, elle va le chercher chez qui ce prix alors? C'est Ethan ou Hector?
Oh, mais moi je veux bien l'accueillir.
Suédois de la semaine.
Svensk ord i veckan.
Messieurs, dames, j'aime bien ce début. Et vous écoutez là, une chanson de la Suède, parce que vous, messieurs, la Suède a gagné pour la joie de certains. Donc ça, c'est la chanson, une des chansons qui, de la Suède qui a aussi gagné. C'est celle de l'année 84, il s'appelait, comment quelqu'un sait me dire?
Bigilou de Guilet.
Très bien. Donc la chanson des Gaillots des Guillets qui ne veut rien dire. C'est pour ça qu'on ne l'avait pas utilisée dans les morts suédois de la semaine il y a 3 ans. Parce qu'il y a 3 ans, on faisait déjà cette section, on la récupère. Et Ethan, comment ça s'appelait la section? Alors, un suédois.
Svenskor di Bekan.
Svenskor di Bekan.
Répète, comment ça s'appelait en suédois?
Svenskor di Bekan.
Très bien, bobo. Et alors, une autre question pour un champion avec Fabrice, comme on disait, santé pour la bière?
Eh bien, ça tombe sur moi, bon, on dit Skål, enfin.
Skål, très bien.
Skål för våra sorger och bekymmer.
Et si tu veux demander, s'il te plaît, à tout le temps, tu vas commander quelque chose au bar, par exemple, Farouk?
Snälla.
Snälla, 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 snälla.
Bah voilà, mes amis, ils ont écouté les mots suédois de la semaine. Il y a 3 ans, je suis content.
Mais ah oui, on est devenu bilingue.
Voilà, mais vous inquiétez pas parce que cette année, on va encore apprendre beaucoup plus de mots, ça c'est avec nous cette année. Parce qu'il y a encore beaucoup de chansons suédoises. Donc celle-là, Igloo de Gilei, c'est considéré comme une des pires gagnantes de l'histoire de l'Eurovision, il faut le dire, hein, mais bon. Et moi, c'était une de mes premières Eurovisions que je me souviens. Bon, moi, ça ne me dérange pas autant. C'est un peu kitsch, mais bon. Et c'est chanté par un groupe de 3 frères. Les frères Harris, ou Harris, hein, je ne sais pas en suédois comment on prononce. C'est un peu bizarre parce que c'est des mormons. Et c'est justement à cause de ça qu'un des 3 frères, il a arrêté de chanter parce qu'il devait aller, je ne sais pas, à quel endroit sacré, aux États-Unis ou je ne sais pas où, en tout cas. Et à cause de ça, ils sont arrêtés. Mais sachez que c'est un groupe qui a sorti 9 disques dans son histoire. Et que, aux années 80, c'était déjà le premier boys band qui a eu du succès, hein, international. Et parce que ils ont eu des succès internationaux, mais même si en France et en Espagne, on les connaît vraiment pas. La chanson de l'Eurovision, elle a fait cartonner dans quelques pays de l'Europe. Après, ils ont même été invités dans les pays de l'Union soviétique, et ils ont gagné le concours musique Sopot. Je sais pas si vous connaissez, c'est en Pologne, c'est une espèce d'Eurovision, enfin, un concours international qui est assez réputé, pas comme l'Eurovision, mais qui pendant 3 ans, c'était l'Eurovision des pays de l'Est, parce qu'il s'appelle l'Intervision. Enfin, bref. Donc, c'est un groupe qui finalement, même si on ne le savait pas, il a eu beaucoup de succès. Et c'était les groupes avec les plus de succès aux années 80 en Suède. Moi, j'y crois pas, parce que pour moi, c'était Europe avec les Final Countdown, non, mais bon. Donc ça c'est pour les Harris. Et pour les mots suédois de la semaine, parce que je suis sûr que vous voulez savoir plus de mots, n'est-ce pas? Bon bah, sachez que ça va vous servir pour vous donner rendez-vous. Quand vous serez avec votre amoureux à Stockholm, vous allez pouvoir vous donner rendez-vous. Parce que ça vous apprend à dire sur les parvis. Donc si tu veux te donner rendez-vous avec sur les parvis, ça c'est dit comment, vous savez, en suédois, ça c'est på esplanaden. Écoutez. Mais si tu veux pas aller au parvis, mais tu dis bon, dans la rue, bah dans la rue aussi il le dit, c'est écoutez, på gatan. Et si tu veux être très gentil, la chanson en plus, et pour finir, il t'explique à dire avec plaisir aussi, hein, ça se dit, écoutez.
Moi j'ai une pensée pour Fabrice. Parce que, en revenant en Suède, avec un concours à Stockholm, je pense qu'il est dans l'idée de croiser un des ABBA, Charlotte Perrelli, et pourquoi pas les trois IRS. Mais malheureusement, s'il y en a un qui est chez les Mormons à Salt Lake City, ça va être dur d'avoir les trois, Fabrice.
Bah, un seul compte, hein. Moi, c'est bon, un seul des ABBA, ça serait suffisant. Je serais fin heureux, tu sais. Mais c'est marrant, cette section hater, c'est que du coup, ça dragouillait, hein.
Suède en plus. Et juste un petit commentaire, c'est que en choriste, parce que ça c'est un peu comme l'électrique, vous allez voir, comme en choriste, il y avait une chanteuse qui s'appelait Lotta Pedersen, qui ça vous dit rien, qui l'année d'après elle a fait aussi le chœur pour la Suède, hein, avec la Pepper Tuner. Mais c'est surtout en 87 qu'il a représenté la Suède, c'était Lotta Ember en fait. Donc là, elle a été choriste. Donc Lotta Ember, même s'il a fini très bas en 87, il a gagné l'Eurovision comme choriste avec les Harris. C'est une anecdote. Et avant de finir, je voulais juste faire un petit commentaire, c'est que les Harris, ils sont gagnés en position numéro 1, messieurs, dames.
Oui, mais c'était voilà. notre époque.
Voilà, voilà.
C'était la dernière fois.
C'était la dernière fois, ok.
On va rester encore un petit peu en Autriche pour parler de l'organisation de l'ORF. Vous savez que lorsqu'on est accrédité presse, on a accès à une grande salle de presse, qui était d'ailleurs pas mal, sauf que les tables étaient quand même un petit peu petites et c'était pas évident de nous, on est obligé un petit peu de se serrer. Il y a eu beaucoup de journalistes assez rapidement et la salle de presse s'est révélée très vite pleine à craquer. Notamment les derniers jours où là c'était pratiquement impossible de trouver un siège ou un bout de table pour pouvoir travailler. On avait quand même droit à un petit buffet, donc des petites sucreries, des petites gaufrettes, des petits bonbons, des fruits aussi, des pommes. On avait droit au café gratuit. Et derrière la salle de presse, il y avait une espèce de snack où on pouvait manger chaud le midi ou le soir. Bref, on a été quand même... on s'est bien occupé de nous, finalement. C'était pas mal. Moi, je garde un bon souvenir de cette salle de presse. Il y avait des grands écrans. C'était bien.
c'était familial, on va dire, parce que comme c'était pas si grand que ça, finalement on avait l'impression d'être tous ensemble. Bon, c'était grand, mais pas par rapport au nombre des personnes qui venaient, surtout dans la deuxième semaine, et par rapport à la bouffe, bah, surtout les sucreries. Je croyais que j'aurais grossi 5 kilos, j'ai grossi, je pense qu'il y a des bikilos, pas grand chose, finalement.
Quand tu es rentré, on a dû te rouler, Aitor.
Non, j'ai pas grossi cette année, bizarrement.
Bah, la salle de presse était dure, hein. Les bonbons, les chips et tout ça, c'était trop bien. Par contre, le stack à côté, moi j'ai pas trop aimé.
Est-ce que je pense qu'on a... Non, je pense, je suis sûr d'ailleurs qu'on a tous aimé. C'était les volontaires de cette année parce que j'ai jamais vu, mais vraiment ça, jamais. Parce que je dis pas que les autres fois c'était pas des gens sympathiques parce qu'ils l'ont été. Mais là, cette année, c'était vraiment incroyable. Les volontaires, c'était top, quoi. Ils faisaient tout pour toi. Bon, pas tout, je vais pas exagérer. Vous passez par des choses bizarres, mais si vous avez écouté les mots suédois, non.
Malheureusement, non, ils faisaient pas tout. Ah, bon, bref.
Mais bon, qu'est-ce que tu veux dire? Attends, dis-nous.
Bah, qu'il y avait mes jeux Microsoft et mon petit blond que j'aimais bien, que, effectivement, on aurait bien. Enfin bon, bref, passons à autre chose.
Ça, c'était pas volontaire, hein. Fabrice?
Ah, ils ont été très, 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 très sympas. Très. Tous. Très bien.
Ah ouais, non, c'était magnifique. Vraiment. On a eu la chance de passer le dimanche après le concours à l'Euroclub. Il y avait une grande soirée de remerciements pour les volontaires. Donc j'ai mixé une partie de la soirée et c'est vrai que ça faisait vraiment très familial. On sentait vraiment une très bonne ambiance. Il y avait la responsable des volontaires qui était là, qui a reçu des prix, eu des vidéos, elle a pleuré. Enfin, c'était assez émouvant. Et moi qui suis généralement très très insensible à ce genre de truc, j'avoue que j'ai trouvé que c'était c'était bien, c'était émouvant.
C'est vrai que notre séjour a été vraiment très très agréable cette année. Et notamment grâce à tous les t-shirts roses. Bon, enfin, ils avaient des t-shirts roses, c'est comme ça. Et donc, un des principaux intérêts d'aller au concours, c'est quand même les soirées. Et alors, cette année, bah, c'était super, moi j'ai trouvé. La première semaine, les Autrichiens ont décidé de nous faire la tournée des bars et des boîtes de la ville. Et ben... super comme première semaine. Évidemment, toutes les soirées n'étaient pas réussies, mais c'était varié. On a découvert des lieux sympas, entourés parfois de nombreux Viennois qui n'étaient pas forcément là pour le thème de la soirée. Et c'était bien, quoi. Alors, particulièrement réussi pour moi, la soirée du Café Léopold, avec les DJ Dimoe. Très bien. Et puis la soirée au Belvédère, c'était quand même incroyable. Pour les salons, déjà... pour le jardin, pour la vue sur le Belvédère de nuit, comme ça, on avait vraiment l'impression d'être privilégié. Il y avait un groupe folklorique à la Global Cleaner avec danseuses et tout, c'était super drôle. Petit four à volonté. Bref, c'était vraiment parfait comme soirée. En plus, nous, on a fini dans un bar local avec quelques fans allemands et britanniques et des Autrichiens aussi. Ah oui, il y avait les deux Autrichiens à l'Action Media. C'était vraiment parfait, quoi. Non, moi, j'ai adoré la première semaine. La deuxième semaine, l'Euroclub. Bon, bah, c'est vrai que maintenant qu'on a connu Malmö, tous les Euroclubs nous paraissent moins bien. Mais enfin bon, comme là pour le coup, rien que le lieu, c'était magistral. Et puis bon, je dis ça, mais on s'est quand même amusé, hein, cette deuxième semaine aussi.
Contrairement à Ethan, moi je suis pas très élogieux sur ces soirées.
T'es passé 3 fois 10 minutes.
Mais écoute, ça sentait mauvais déjà d'une. Oh. Ça sentait la levure, je sais pas quoi.
Ah oui, à l'entrée, c'était dans une brasserie. Mais juste à l'entrée, une fois que t'étais dedans, ça sentait plus. Mais c'est vrai qu'à l'entrée, l'odeur était très forte.
Et moi je suis pas très pour nous faire voyager la première semaine. Moi j'aime bien le rock club dans un endroit fixe qui bouge pas. C'est peut-être ça aussi que j'ai pas trop aimé l'endroit. Voilà.
Ouais, bon, faut dire que la première semaine était quand même assez fatigante on avait du mal à vouloir ressortir derrière. Donc on n'a pas profité des soirées qui ont bougé. Alors après le rock club, C'était un peu énorme, il y avait une espèce de labyrinthe avec plein de couloirs, avec plein de salles, c'était un petit peu compliqué de s'y retrouver. Au niveau des soirées, il y avait certainement de bons DJ, mais il y avait aussi des soirées chiantes avec un espèce de groupe, avec une roumaine qui chantait les tubes de l'Eurovision, souvent c'était en plus des vieux tubes. Ça a plombé quand même pas mal de soirées ce truc-là, et je pense que c'est un truc à éviter finalement de faire venir comme ça des groupes ou des chanteuses
sud-africaines.
Je pense qu'il faut carrément donner les manettes aux DJ qui savent ce qui plaît aux fans et pas nous imposer un espèce de supplice avec des groupes sans talent. Même si c'est du live, ça reste bien chiant. Heureusement, les artistes sont passés, tous plus ou moins aux soirées. On a vu une soirée avec Lisa Angel, notamment. J'avais vu une soirée aussi avec, je sais plus où, dans Vienne avec d'autres chanteurs du concours. C'est vrai que l'intérêt de cette semaine-là, c'était que les artistes du concours montent sur scène, chantaient leurs chansons du concours, et pourquoi pas une ou deux en prime pour nous montrer un petit peu l'étendue de leur talent.
Je suis un peu entre les deux opinions parce que moi, je suis plus fêtard, un peu comme Ethan. J'aime bien sortir en soirée et je pense pas que, malgré qu'on avait beaucoup d'heures de répétition la première semaine, comme ça a démarré surtout le premier jour à midi, on avait le temps de sortir. Je pense pas que ça c'était les problèmes. Les problèmes, c'était qu'il y a quelques soirées qui étaient vraiment ratées. La première, celle du quartier du musée où tu as parlé, c'était vraiment très bien. Mais ouais. il y a d'autres que c'était un peu chiant, faut l'avouer. Hein. Celle que c'était une espèce de truc là où il y avait les Roumains et tout, qui chacun sentait ce qu'il voulait.
Oui, bon, à l'Ophir là. Mais comme ils ont voulu faire un truc varié, nous faire découvrir une palette de lieux assez large, du coup, forcément, dans certains, on se retrouvait pas. Mais au moins, on a vu à quoi ressemblaient les lieux de sortie de Vienne, ce qui est pas le cas dans les autres villes où moi je suis allé. Alors à Düsseldorf, comme on n'avait parfois pas accès à l'Euroclub, on est sorti ailleurs quelques soirs, mais ça avait rien de comparable à Vienne où vraiment la soirée au café Léopold, les jeunes viennois qui sortaient faire la fête et qui venaient pour écouter Dimowe était largement majoritaire, on avait l'impression de passer une soirée à Vienne, quoi. Moi, j'ai trouvé ça très agréable. En plus, le duo de DJ, là, était vraiment super.
Oui, mais en fait, quand on a connu la première semaine l'année dernière, que c'était avec les chanteurs très eurovisuels, ça nous manquait un petit peu ce côté parce que, enfin, non, j'exagère parce qu'il y a eu des concerts aussi des chanteurs dans quelques soirées, mais il y a des soirées où on s'est ennuyé. C'est pour ça que j'ai dit que c'est moyen. Je pense que l'idée c'était pas mauvaise, c'est juste que bon, ils ont pas réussi tous les jours à avoir l'ambiance qu'on aurait voulu nous. Et l'Euroclub, sinon l'endroit c'était magnifique, comme tu dis. Peut-être on s'est perdu, comme dit Farouk, donc tu souhaiterais les deux encore. Mais bon, c'est ni les pires ni les meilleurs. Et au pire, si on voulait manger, on pouvait sortir à l'extérieur avec des kebabs pas chers du tout, avec des bières pas chères du tout. Parce que c'est vrai que cette année, la bouffe à l'Euroclub, c'était inexistant par rapport à d'autres années. On n'a pas eu la bouffe dans les soirées ni rien. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu le dommage.
Sauf la soirée israélienne.
Sauf la soirée israélienne. Mais seulement celle-là. Donc voilà, c'est pas trop. The stars tomorrow no longer shine on us. If a storm takes me, Et sinon, par rapport à la ville, Fabrice?
Oui, la ville, bah oui, c'était en plein cœur de Vienne, hein, donc c'était quelque chose d'intéressant pour une fois. Donc les transports, il n'y a pas eu particulièrement de problème, hein, c'est bien desservi. Et puis pour le tourisme, c'est une ville qui permet de... on a été par exemple avec Farouk voir le château de Schönbrunn. Il y a de quoi faire hein, dans cette ville, c'est sympa, c'était bien. Ils ont bien fait ça, Vienne.
Ouais, une petite ville bien sympa et des beaux endroits à visiter, rien à dire. Au niveau des transports, c'est pas mal. On a souffert le premier jour parce qu'on était un petit peu excentré par rapport au métro. Mais avec les bus et les trams, ça le fait bien. On avait la chance d'être très bien situé puisqu'on allait aussi bien à la salle qu'à l'Euroclub à pied. Donc c'est vrai que c'est pour ça on était vraiment pas mal.
Moi de mon côté, j'ai adoré parce que ça m'a fait perdre quelques petites répétitions la première semaine, mais genre une ou deux parce que ça démarrait si tard que j'avais le temps de tout faire. J'ai fait la soirée, les tourismes et les répétitions. Moi, c'était tout terrain. Et justement, merci à Vienne parce qu'ils nous ont donné la possibilité à la presse de visiter l'université, que c'est vraiment magnifique, la tour de télé, des tours en bateau. Des choses, enfin, mis à part les musées, etc., qu'évidemment, qu'on a aussi fait, mais je veux dire des choses que j'aurais jamais visitées, que j'ai trouvées magnifiques, gratos. Et les anecdotes, c'est que j'ai été en bateau pour prendre les petits-déj, et il y avait, par exemple, une partie de la délégation de la Serbie, et la hongroise, la chanteuse hongroise. J'ai fait la tour de télé, ou je sais pas quel tour c'était maintenant, je me souviens plus, et j'ai dîné, mais vraiment un super dîner avec la délégation hongroise aussi à nouveau. C'est des souvenirs, j'ai raté un peu les belvédères, donc on pouvait pas tout faire, mais les belvédères c'était bien aussi. Voilà, c'est pour dire que pour moi, Vienne, de toutes les villes que j'ai visitées, je n'exagère pas, pour moi c'est la meilleure au niveau tourisme, la meilleure organisée et celle que j'ai profité le plus de faire les concours et les tourismes. Donc pour ça, bravo. Time for 12 points.
Allez, on va passer au concours Second Chance et c'est évidemment Elena Paparizou qui ouvre cette section avec le titre gagnant du Second Chance 2014. Concours Second Chance, c'est comme son nom l'indique, une seconde chance pour les candidats malheureux des finales nationales. Chaque club OGAE qui a la chance d'avoir une finale nationale choisit un titre parmi ceux qui n'ont pas gagné leur ticket pour le concours et les membres des différents clubs européens votent pour leur favori.
nous nous sommes également prêtés au jeu et allons vous présenter notre classement Eurovision 69. On commence tout de suite avec un petit mix des 6 derniers.
Dernier de ce classement, la Serbie avec Danica Krstić, Suze Zrastkraz.
Septième et avant-dernier, le Portugal, comme d'habitude, avec Chiara Diniz et Outra Vez Primavera.
Deuxième, c'est la Slovénie avec Martina Mayerle à la chanson Alive.
L'Albanie est 15e grâce à ou à cause de Lindita Halimi Stefal.
Quatorzième, la Moldavie, Cesara, il interprète Amdemitri Strinic.
C'est toujours Fabrice qui a droit aux trucs les pires à dire. C'est la Lituanie avec Edgars Lubis et Not Perfect. Ben, je vais vous proposer de continuer tout de suite avec la 12e place. Si je vous dis Kaleja, vous pensez à
Malta.
Courte. Ouais. Sauf que là, il ne s'agit de pas de Courte Kaleja, mais il s'agit de Franklin Kaleja, donc ça doit être son petit frère, avec une chanson qui s'appelle Still Here et qui a été terminée 4e de la sélection maltaise. Just the two of us again. Das Gold von morgen
11e, l'Allemagne avec Alex Reiser qui interprète Das Ghost von Morgen. Et je précise à Hector que c'est lors du matin, pas de demain. C'est pas grave.
Non, de demain aussi. Lors de demain, c'est aussi Morgen. Ah, les mots de truc de la semaine, qu'est-ce que tu veux?
Ouais.
Dort ist das Verborgene, da findest du. Fang an zu graben, denn dort ist das Verborgene, da findest du das Gold von morgen.
Tout comme sa chanson, elle a un faux air de l'ukrainienne Gaïtana, a des rajouts capillaires dignes de ceux de Beyoncé et une chorégraphie très paparizou, mais ne chante malheureusement vraiment pas très bien. On écoute Saya Hansen avec Sunshine. Et alors, quel dommage qu'elle ait détruit son titre en live, parce que c'était vraiment bien sinon, moi je trouve.
La position 9 dans ce podcast, enfin de ce classement de ce Consens, l'Autriche, le groupe Dawa, qui a fini deuxième dans la finale nationale, en chantant la chanson Feel Alive. Jolie chanson, vous savez ce qu'il voulait dire, c'est sentir vivant.
Et maintenant, nouvelle saison, nouvelle rubrique, c'est la Minute Mons.
Don't tell the gods I left a mess, I can't undo what has been done. Let's run for cover.
Le 24 mai 2015, Conchita a cédé son écharpe de Miss et c'est dorénavant le très beau, musclé, charmant, hyper sexe Mons Zelmerlove qui porte le diadème. Ok, il a eu quelques paroles stupides face au Thierry Ardisson local, mais il a depuis réjoui le public du Gala QX d'un rapide, trop rapide, remake du clip Wrecking Ball. En guise d'excuse, perso, je trouve ça pas mal. Culotté, diront certains, sans culotte, je préciserai. Bref, Mons est la nouvelle reine du bal et aura à ce titre droit à sa minute mensuelle. On passe des talons aux hormones. Une minute donc pour vous parler d'un, voire plusieurs, soyons gourmands, beaux gosses qui agitent et fait s'agiter le petit monde eurovisuel. C'est Marcus qui ouvre la saison, Marcus Riva, mannequin, DJ, auteur, compositeur, chanteur, producteur et tout, vous le connaissez pour ses deux participations aux finales nationales lettonnes. Vous ne vous souvenez peut-être pas de ses chansons, ce qui est un tort puisque les deux sont très bien, mais vous n'avez pas pu oublier son sourire charmeur, ses yeux magnifiques et son torse impeccable. Et vous vous dites là tout de suite maintenant, tiens, mais que devient Marcus, c'est vrai? L'État n'est là pour vous tenir informé. Marcus a sorti un nouveau single, c'est pas mal,
sans plus, mais pas mal quand même, Marcus a surtout sorti un nouveau vidéoclip. Pour vous donner une idée de la chose, disponible sur la page du podcast, je ne vous dirai que ça. Va-et-vient de bassin, pantalon en latex et requin entre les jambes.
Tell me how it feels to be gone, disappear for days. Tell me how it feels.
Le résultat du concours donne évidemment raison aux jurés et téléspectateurs laitons, mais c'est avec déception, une énorme déception, que j'ai vu le 22 février Marcus Riva terminer second du Supernova. On écoute Take Me Down. Alors c'est sûr, le titre est pas aussi bien que son Lights On de 2014. Mais c'est Marcus, alors quoi qu'il chante, moi je suis dans tous mes états.
Oui, bah c'est Marcus Riva pour Ethan, hein, donc on va pas contredire Ethan, hein, ça fait tellement plaisir.
Oui, parce qu'il a 14 points et 10 points lui viennent d'Ethan. Ethan vient lui-même de le dire, quel est le son ou pas le son, il a donné 10 points. Donc vous avez compris que c'est pas pour la chanson qu'il a voté.
Non, mais c'est aussi la chanson quand même.
Si on peut appeler ça une chanson.
We go up in flames, I won't feel a thing. Next to you I stay, if anything kills me. If you gon' fall, if you gon' break, darling, I'm coming with you.
Allez, 7ème position, si on n'a pas le droit de Rest of the World. C'est une chanson de la sélection Belarus. Si je me souviens son blanc, c'est une chanson qui a été composée par Alexander Rybak. C'est une super chanson qui pourrait même gagner le concours. C'est Mitki avec tout le monde connaît avec la chanson Accent.
C'est pas possible. Non mais c'est quand même quelque chose qui va pas. Déjà au moins avec cette chanson, vous avez la preuve qu'on peut écrire à la fois des chefs-d'œuvre et des grosses bouses. Et ça, ça en est une. Je m'insurge contre ce Second Chance 2015. Il n'y a même pas la Hongrie Et donc là, c'est vraiment scandaleux, parce que la Hongrie avait plein de bonnes chansons à proposer, et là, elle est même pas présente, c'est une honte. Et à la place, Restore the World a choisi cette horrible daube, je pense qu'on peut pas l'appeler autrement. Je suis choqué, scandalisé.
Déjà, on est habitué à Rest of the World et qu'ils choisissent pas du tout les bonnes chansons. Je pense que cette année, il y avait les meilleures chansons, c'est clair. Mais malgré tout, je vais donner raison à Fabrice parce que moi, j'aime bien. Je vais donner un 5. Je l'ai classé 5e de ce jeu, je suis content. Le live, c'est vrai que c'est un peu pourri, mais la chanson, on est studio, c'est sympa. Hein. Je trouve que ça aurait fait une espèce de Pologne de l'année dernière, 2014, version un peu moins sexy. Hein. Mais c'est plus sympa.
Bon, allez, on va passer à la chanson qui est classée 6e. Si je ne m'abuse. Il s'agit de l'Italie et de Neck avec Fatti Avanti Amore.
Avvicinarci e poi abbiamo bocche per dare baci, o meglio dire per assaggiarci. Se un pianto ci fa nascere un senso a tutto il male, forse c'è, io sono pronto a vivere, ti guardo e so perché siamo fatti per amare.
Alors si cette chanson est dans le second chain, c'est parce qu'elle a été choisie par les membres d'OGAE Italie. Si Neck avait gagné le Sanremo, il n'est pas du tout évident qu'il aurait représenté l'Italie au concours. Hein. C'était même pas du tout certain. En attendant, bah, c'est une bonne chanson pop italienne, comme on les aime. Enfin, tout le monde sauf Ethan. C'est pas mal, c'est du Neck et on connaît Neck depuis presque maintenant 20 ans. Et c'est dans son style et c'est bien.
Oui, je suis d'accord. Encore un 5 de mon côté. J'ai l'impression qu'il est très bien. J'étais un peu déçu quand j'ai vu qu'il finissait pas gagnant de Sanremo. Parce que je peux faire une chanson mal classée, comme Emma Marrone, mais qui est moderne et qui est bien, qui est une chanson classique. Même si les All Boys ont été très bien, hein, faut pas penser. Mais bon, cette chanson, je pense que ça aurait été une belle chanson pour l'Eurovision. Et dommage. Mais au moins, elle a fini 6e dans notre classement.
Ah, moi c'est pas trop ma tasse de thé, mec. J'aime pas.
Fatti avanti amore. E fatti avanti amore.
La section des Koufarouk.
Ouais.
What else?
What else? What else?
What else?
Ja ti priznajem sve, sve glupo.
Ce What Else, c'est un hommage à la Croatie et à ses 20 ans de participation au concours entre 1993 et 2013, date de leur dernière participation. La Croatie a connu des fortunes diverses à l'Eurovision au cours des années 90, elle a plutôt été heureuse dans ses choix, frôlant même parfois le podium à plusieurs reprises. Globalement, entre 1995 et 2006, son classement moyen se situe entre la 9e et la 10e place, et quand elle n'est pas dans le top 10, elle n'en est pas loin. 2007 est un tournant tragique, puisque la Croatie loupe pour la première fois la finale, qu'elle ne retrouvera qu'en 2008 et en 2009. Et depuis, la Croatie a été régulièrement éliminée, et ce fut d'ailleurs généralement mérité. 2013 illustre ses mauvais choix, puisque la Croatie envoie un Malmö, un Klapa, un groupe certes typique du folklore croate, mais pas du tout adapté au concours. Depuis, Zagreb boude le concours, officiellement pour des raisons financières. 2016 sera-t-elle l'année du grand retour de la Croatie, comme ce sera le cas de la Turquie? Eh bien, si c'est le cas, on fêtera alors dignement les 20 ans de la participation de Maja Blagdan, qui avait terminé 4e au concours de Oslo en 1993. C'est le meilleur classement de la Croatie au concours avec celui de 1999. Maja Blagdan a participé 5 fois aux sélections croates pour l'Eurovision entre 1993 et 2008. Elle est née en 1968 et c'est une artiste très populaire en Croatie qui compte 8 albums à son actif quand même, sans compter un paquet de singles, dont le dernier, Vize ad Novzice, est sorti au début 2015. On se rappelle de Maja parce qu'elle s'est fait remarquer à Oslo par son cri perçant qui est capable de briser le cristal. Parler de la chanson 2015, je préfère vous faire écouter le magnifique, comme dirait Hector, Svetlana Zena, qui est là dans la lignée de la chanson de 1996. Ce titre est sorti en 2008. Certes, c'est vieillot, même ringard, mais bon, personne n'ayant le monopole du bon goût, on va dire que c'est ça aussi le petit monde de l'Eurovision. Donc maintenant, je vous laisse cracher votre venin.
Sachez que avant j'étais, enfin j'ai suivi l'Eurovision, j'ai vu la Yougoslavie, j'aimais bien les chansons de la Yougoslavie des fans des années 80, c'était souvent des chansons croates, j'aimais bien Maja Blagdan en réalité, je t'avoue, et j'aimais bien Maria Magdalena, etc. Mais comme tu dis, il y a une espèce de quelque chose qui s'est passé, j'ai pas compris de quoi, une espèce de tremblement de terre musical en Croatie, et depuis je pense qu'il s'envoie de la, je dirais pas les mots parce que je veux pas être grossier, et ces chansons que tu le mets, ça fait partie de cette grâce que je dirais pas le mot, et j'aime pas du tout, je leur donnerai un zéro. Et je l'avais dit à Farouk, pour rigoler, si c'était pas une vengeance pour quelque chose que je le fais, parce que c'est pas normal qu'il nous ait fait un World sur la Serbie-Croatie en podcast 51, 53,
52.
Après, je pense que 3 ou 4 chansons balkaniques, balkaniques, quoi. Et là, on écoute la Croatie pour faire plaisir à Farouk, pour Fabrice. Bon. Je sais pas si j'ai été pardonné. Sache qu'ils ont commencé à avoir une maladie qui s'appelle Ulticaire Croatius. Je sais pas si vous pouvez la soigner.
Ça se manifeste comment? Quels sont les symptômes?
Bah, ça pique partout. J'ai mal aux oreilles. Et ils m'ont dit qu'il faut écouter des chansons de Mélodie Festival. C'est pas ce cas. C'est Anne.
Alors. Pour vous dévoiler un peu les dessous du podcast, cette saison, Aitor nous impose un nouveau truc pour faciliter le montage. Quand il y a un truc qui nous intéresse vraiment pas, qu'on n'a rien d'intéressant à dire sur le sujet, on dit next. Comme ça, il sait qu'on est coupé au montage et puis voilà, on passe à autre chose. Et ben là, next.
T'as pas été très inspiré, Farouk.
Fabrice, t'es déjà malade aussi?
Non mais ça j'aime pas, j'ai écouté 30 secondes, j'ai pas pu tenir plus. Pourtant j'aime bien la Croatie à l'Eurovision, j'aime bien Daniela, j'aime bien Doran Dragovic, tout ce qu'on veut, mais ça je ne comprends pas.
Non mais c'était un clin d'œil. En fait ce qui est assez amusant, je me suis intéressé à Maya Blackdan il y a quelques semaines, j'ai écouté un petit peu sa discographie, et c'est vrai que ce qui est assez drôle avec cette artiste, c'est qu'elle chante exactement la même chose depuis 25 ans. Ça n'a pas changé. Même si sa chanson de 2015 est un petit peu plus soft. Mais c'est toujours pareil, avec beaucoup de mandolines, des chœurs et tout. Et oui, c'est ringard, mais écoutez, on est fan de Eurovision, donc je pense qu'on a tous nos grosses daubes. Et ça fait partie des miennes.
Bon, ma grosse de bas, moi, c'est l'Islande 80.
Oh là là.
Allez, les enfants, on va aller retourner sur notre classement. Cinquième position dans notre classement en jeu seconde chance, nous avons classé donc le Danemark, Anne Gatgar, qui nous interprète la jolie chanson Sweet Case. Bah, c'est mignon, tout simplement, c'est mignon.
Bon, moi je sais que je me répète beaucoup, j'ai dit toujours la même chose, je suis comme un disque, là, je répète. Anne Gatgar. Je l'ai présenté au mois d'annuaire de la semaine de la saison 2. Parce qu'il avait représenté le Danemark Eurovision 50 les juniors, hein, avec la chanson à l'Alliance Drøm, parce que le mot danois de la semaine c'était Drøm. C'est quoi Drøm, Ethan?
Rêve.
Voilà, hein. Et quelqu'un qui écoute les mots danois aussi. Très bien, bravo.
J'aurais pu deviner, hein. Je vais pas vous être méchant, mais.
Et sinon, par rapport à la chanson, moi j'étais plus comme Farouk et Fabrice pour la chanson qui a gagné réellement. Ou de voir d'autres de Thomas Dixon, etc. Enfin, Thomas Dixon. Mais c'est vrai que c'est pas si mal. Sophia dreams,
she wants it all. Hoping one day there'll be a picture on the wall. Moi, c'était ma favorite de la finale nationale danoise. Je pense que ça aurait été un bien meilleur choix que les anti-social media. C'est le genre de chanson qui fait se sentir bien. Tu l'écoutes et puis t'as envie de regarder une comédie romantique lovée dans les bras de Marcus. Go pack your bags, get on the train.
On va quitter le Danemark, mais on va pas aller très loin. On va passer le pont là qui est entre Copenhague et Malmö. On arrive en Suède. On va passer à la chanson suédoise de Mariette, Don't Stop Believing. Bon, on en a parlé déjà sur Mariette, vous vous souvenez sur dans les podcasts Melody Festival, il n'y a pas longtemps. La chanson qui a fini 3e au Melody Festival, on l'écoute fort parce que c'est ce qui va m'aider à me soigner la maladie que je viens de dire de Farouk.
Urticaire Croatius.
Sinon, Mariette, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'elle avait fait les idols, qu'elle a été personnalité homo en Suède, je pense que l'année 2010 ou 2009 par là. Bon, en tout cas, elle a une espèce de titre comme ça. Il va chanter la chanson des prochains Gay Pride en Suède, comme ça, quoi. Donc, c'est un personnage du monde gay et qui a donné des points cette année pour la Suède. La chanson magnifique. Avec une mise en scène qui je me demande si une telle Edurne n'a pas copié une espèce de cap qu'elle avait derrière. Je sais pas ce que vous en pensez.
Ah bah la mise en scène a été hyper efficace. Le titre est pas mal. Pas de bol pour elle. Laurine est déjà passée par là. Musicalement c'est ailleurs, c'est sûr. C'est un peu différent dans l'attitude, mais ça a quand même la même odeur, le même esprit, on va dire.
Et je pense que tout simplement la Suède ne veut pas gagner ce concours. C'est pour ça qu'ils ont envoyé Mariette au lieu d'envoyer Jan Ulrik.
Jan Ulrik? C'est qui Jan Ulrik?
Jan Ulrik.
Ah l'Esquimau.
L'Esquimau, ouais, tout ce qu'on veut, mais qui a failli gagner ce concours de cette année. Hein.
Ouais.
Mais c'est, on a fait un podcast sur le Melody Festival et on est tous d'accord pour dire que les meilleures chansons ne sont pas dans cette finale. Elles ont été éliminées avant. Moi, j'aime bien cette chanson de Mariette, même si c'est vrai que c'est quand même bien copié sur Laurine et ça manque d'originalité. Personnellement, je préfère son titre qu'elle avait sorti il y a un an qui s'appelle If Only I Can. If only I can. Vraiment une très belle balade que je trouve beaucoup plus forte que Don't Stop Believing. Bon, j'imagine qu'on verra Mariette prochainement dans un Melody Festival. Ce serait quand même bien que la Suède gagne pas à nouveau ce Second Chance. Je pense que elle ne va pas gagner.
Reste tout au nord, Fabrice dirait ils sont beaux comme nous, on écoute les Satin Circus et Crossroads. I can't get you out of my mind. Remember how you dance with me, how you dance with me. Don't see the
out now, those days are gone. Choices must be done, standing at the crossroads. But tonight we can be young, young, yeah, 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 young.
Énormissime déception le soir de la finale finlandaise, hein. Les Satin Circus étaient les grandissimes, c'est le moment des issimes favoris, destinés à un top 10 minimum, hein, sur la scène de Vienne. Ils terminent second de leur sélection nationale, derrière un mouvement de sympathie sourd, sourdingue même, pour les Pertti, Kurikan, Nimitruk. C'est sympa, moi je trouve, les Satin Circus, ça fait penser aux boys band britanniques dans l'air du temps. Ils sont beaux, ils sont charmants, j'allais dire, ils savent chanter, c'est vrai aussi. Bref, ils auraient été parfaits pour Vienne.
C'est juste, Ethan, ils auraient été parfaits pour Vienne, ils auraient été qualifiés en finale, sans souci. Dommage.
Écoute, c'est bien fait pour les Finlandais, ils l'ont cherché, hein. Ils ont voulu leur PNK, ils les ont eus. Mais ils ont terminé dernière de leur demi-finale et c'était tout à fait mérité. Dommage, parce que je pense effectivement les Satin Circus auraient pu accrocher le top 10 à Vienne. Bien fait.
Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Parce que quand on se souvient de la magnifique finale nationale de cette année, qui avait des sensations magnifiques, vraiment c'était une des meilleures de l'histoire de la Finlande, et ils se sont envoyés cette M encore à nouveau. Et... oh là là, quel dommage. Donc on va passer à la chanson qui a fini deuxième, mais sachez une chose, c'est que c'est la chanson que si on avait utilisé la méthode de vote d'habitude, que c'est celle de noter de 0 à 5 étoiles, c'est la chanson qui aurait eu plus d'étoiles, c'est la chanson qu'on a plus aimé, sauf que la méthode d'Eurovision, que vous avez compris contre, hein, a fait qu'elle se finisse deuxième, de la magnifique chanson de l'Irlande, Anybody Got a Shoulder, interprétée par Kat Mahon. Elle avait aussi remporté notre podcast d'Irlande. C'est une chanson que Fabrice et Farouk, je me souviens, ils s'aimaient aussi beaucoup. C'est la typique chanson qu'à la première écoute me font pleurer, que j'adore, que j'ai toujours pas compris pourquoi elle n'a pas gagné la finale nationale. Je crois qu'il a un petit problème avec les publics en Irlande, parce que pas seulement elle n'a pas gagné la finale à cause du public après gagner les jurys, mais aussi il a été éliminé après à The Voice quelques semaines après en Irlande par les publics. Donc, Kat, il t'aime pas là-bas, bien en France, ici on va t'apprécier, je pensais.
C'est vrai, le truc, c'est que c'est un mix entre un générique de Disney et une grande balade de comédie musicale. Du coup, c'est très efficace, ça fonctionne, ça apporte pas grand-chose, mais c'est agréable à écouter. Du coup, c'est vrai qu'on pardonne à Kat Mahon son côté complètement désuet, hein, faut bien le dire. Et en même temps, c'est ce qui nous plaît chez elle. Anybody got a shoulder I could cry? Anybody got a hand to hold? Anybody warm? I'm feeling cold. Anybody want to hear the reason why? Anybody got a shoulder I could cry? It's clearer now. How could I have missed the signs? Not read between the lines. I should have known. I'll know again when thinking I am but the only one. Anybody got a shoulder I could cry? Anybody got a hand to hold? Anybody warm? I'm feeling cold. Anybody want to hear the reason why? Anybody got a shoulder I could cry?
Ah, bah, cette chanson, c'est une chanson de gagnant. Kat Mahon chantant Anybody Got a Shoulder en Suède, elle aurait gagné le concours. En Azerbaïdjan, elle aurait gagné le concours. En Russie, elle aurait gagné. Donc, Kat Mahon vient en France avec une chanson pareille, c'est pas grave. C'est bien, c'est magnifique cette chanson.
Surtout si c'est toujours Charlie McKittigan qui l'écrit.
Oui, surtout.
Comme ça, tu pourras faire la photo avec.
Ben oui, ben oui.
Bref, c'est comme pour la Finlande. Hein. Et alors, le casting complet pour l'Irlande. Je me rappelle qu'Ethan nous avait annoncé que la pauvre malheureuse Irlandaise allait être qualifiée au la main sans aucun problème pour la finale.
Son classement reste une surprise pour moi, oui.
Ah bah tu dois être le seul alors, parce que franchement c'était déjà pratiquement ce qui se dessinait au moment où elle a été choisie. C'est vraiment dommage parce que l'Irlande avait une chance d'accéder à la finale pour moi avec Kate Merron, désuet peut-être, mais accessible en tout cas, et pas prétentieux comme la chanson que l'Irlande a envoyée cette année.
D'ailleurs on s'en rappelle même plus.
Oui, c'est vrai qu'on a totalement oublié cette chanson. Allez, je vous propose de terminer par la chanson qui a remporté ce Second Chance. Il s'agit de la Hongrie.
Ah, non.
Ah ben oui, c'est vrai que la Hongrie ne participe pas. Magouille de Second Chance. Non, la chanson qui remporte le Second Chance pour Eurovision 69, et à mon avis qui va le remporter pour de vrai, c'est la Norvège avec Erland Bratland et le fameux Thunderstruck.
I was young and scared, afraid to say the truth.
Que dire si ce n'est que c'est une chanson typiquement Eurovision. C'est magnifique, c'est accessible à tout le monde, c'est un top 10 assuré si elle avait été choisie pour représenter la Norvège. Ça s'est joué à pas grand chose, hein, faut reconnaître, par rapport à la chanson de Morland et d'Amy Scarlett. Vraiment, je regrette que cette chanson-là n'ait pas été proposée sur la scène de Vienne. C'était vraiment très chouette. Mais il faut reconnaître que cette année, la Norvège avait mis la barre très haut et qu'il y avait au moins 3 ou 4 bonnes chansons dans sa sélection qui méritaient toutes d'avoir leur place à Vienne. Bon, en tout cas, j'espère que Erland Bratland va remporter ce Second Chance. Pour moi, ça ne fait aucun doute, en tout cas.
C'est assez probable. L'année dernière, on a fait qu'il y a deviné. L'année dernière, on a deviné les top 2 à l'inverse. On a mis l'Espagne et la Suède. C'est la Suède et l'Espagne.
Ouais, mais l'année dernière, c'est quand même scandaleux. Ils ont fait gagner Paparizou alors que, sur sa notoriété auprès des fans, alors que Breakett avait vraiment la meilleure chanson.
Je suis d'accord. Bon, pas pour Ethan. Mais il a dit raté tout à l'heure. Mais sinon, pour la Norvège, c'est un très bon choix. Mais après envoyer ce qu'ils sont envoyés, et pour moi, c'était vraiment les tops des tops. Bon, ils ont bien fait, les Norvégiens, quand même, je pense, malgré tout.
Oui, oui, c'est un bon choix qu'ils ont fait. Mais ils ont une finale nationale où ils ont le choix, quoi. Si le Melody Festivalen reste insurpassable pour moi, les Norvégiens, vraiment, le Melody Grand Prix, c'est une des finales nationales les plus intéressantes, une de celles qui propose les titres les plus actuels. On entend de l'électropop scandinave vraiment efficace. Thunderstruck est un exemple parfait de voilà ce qu'ils arrivent à faire. Un exemple qui a même réussi à gagner en force avec un orchestre live, ce qui n'est pas toujours évident pour ce genre de morceau. Voilà, lui, il a été très bien.
Ben, que dire de plus que vient de dire Ethan? Je te rejoins.
C'est donc Erland Bratland qui va clôturer ce premier podcast 2015-2016. On vous dit à tout bientôt, très vite, sur Eurovision 69.
À bientôt!
À bientôt!
À bientôt, et souvenez-vous qu'on va continuer avec les prix Eurovision 69 parce qu'il y a beaucoup de prix encore! À bientôt! How we create our own history.
destroy.